pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Cela se passait hier à Bruxelles, mais on sait désormais que cela se passe aussi à Paris, à Montrouge, que ça passe par Lunel, par Montpellier, par Raqqa et par un bon morceau de la planète. Ce sont maintenant des événements sans frontières, qu'on le veuille ou non, ils se répètent ici et là, sans montrer leurs papiers ni déclarer leur nationalité. 500, 700 en France, 2, 3, 400 en Belgique, les candidats au djihad, les terroristes, les ados décervelés, les victimes de manipulations sectaires selon les points de vue que l'on adopte, vont et viennent en Europe. Ils racontent la même chose, ils viennent du même monde et le terrorisme pareillement. C'est pourquoi je vous propose d'écouter ou de réécouter aujourd'hui ces mères belges qui, comme les Françaises de Sevran, de Saint-Denis ou de Savoie, essaient depuis plusieurs années de faire quelque chose, de faire entendre leur voix et de lutter contre le djihadisme. Leur collectif se nomme les parents concernés, ils ont tous la même histoire. Un fils, une fille, jeune, entre 16 et 25 ans, qui plonge, devient de plus en plus fervent et disparaît du jour au lendemain. Chaque semaine, ils se réunissent et se retrouvent pour chercher ensemble quoi faire et quoi dire. On écoute donc ces témoignages déchirants et, je l'espère, éclairants, sans oublier, bien sûr, qu'aujourd'hui, plus qu'un autre jour, ces parents ne sont pas, loin s'en faut, les seules victimes du terrorisme et du djihadisme. C'est un reportage de Leïla Djitli jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
Elle m'avait laissé une lettre quand elle est partie. « Maman, c'est pour toi ce petit mot. Ne sois pas triste mais heureuse pour moi. Et si je regarde en moi toutes les blessures du passé, c'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour nous. Le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Maman, juste un mot, j'irai là-bas réussir mon épreuve d'Allah. Azawash. Même si je pars dans un pays en guerre, je ferai en sorte d'être bien maman. Tu voulais mon bonheur. J'ai trouvé le bonheur et j'ai eu de la chance. Mais t'inquiète pas pour moi, maman. Je vivrai avec ce que Allah me donne, Inch'Allah. J'ai mis beaucoup dans ces mots, ce que je n'ai pas su te dire. Tu resteras ma mère, pour le meilleur et pour le pire. Tu as toujours tout fait pour nous, pour qu'on puisse avoir des belles baskets à nos pieds. Maintenant, c'est à mon tour de pouvoir m'assumer. J'ai souvent trempé ma plume dans mes larmes pour t'écrire ces quelques mots. Allah me regarde en haut, tu me regardes en bas. Maintenant, accepte mon choix. Tu essaies d'être une bonne mère pour moi, tu es la meilleure qu'Allah a pu me donner, Masha'Allah. Je t'aime. J'aime Allah. Je t'aime à la folie, mais j'aime Allah avant tout. Et quand je serai plus là, j'espère que tu diras, je suis fière de ma fille, Masha'Allah. Je t'aime, je t'aime. Reste fort, maman. Maman, ne pleure surtout pas pour moi, s'il te plaît. Maman, ne pleure pas, s'il te plaît. Prie pour moi. Fais tout pour plaire à Allah, s'il te plaît. Nora. Je suis Samira, je suis la maman de Nora, je suis éducatrice, j'habite à Bruxelles, en Belgique. J'habite dans un quartier, on va dire, il y a un peu de tout, mais on va dire plus de Marocains. Je suis une vraie bruxelloise, plus scarbercoise que bruxelloise. J'ai 4 enfants, j'ai une fille de 23 ans, un fils de 22, j'ai Nora que dans 7 jours, elle va avoir 19 ans. Et j'ai le petit dernier qui va avoir 18 ans. Je veux faire connaître ma cause, que ma fille est partie en Syrie, dans un pays qui n'est pas le leur, dans des conditions qui ne sont pas adéquates, parce que c'est un pays en guerre. Pourquoi ce pays? Pourquoi cet appel? Pourquoi si loin? comme je suis de religion musulmane, à la baignée là-dedans. Les cinq piliers de l'islam, on va dire. Faire le ramadan, ses prières, être bien avec tout le monde, dans le respect de chacun, comme n'importe quelle religion. Pour moi, c'était tout à fait normal qu'elle suive cette voie. J'étais contente pour elle et tout ça, mais je ne savais pas que ce qui m'attendait, qu'elle allait partir en Syrie. Parce que moi, pour ce pays, je ne le connaissais pas. C'est une fois qu'elle est partie que j'ai entendu parler de ce pays, ce que c'était, et que j'ai fait des recherches. Nora, c'est une fille qui avait beaucoup de caractère. Hein. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle avait beaucoup d'amis. Elle aimait être chef, une meneuse, on va dire. Elle avait son caractère, mais elle avait un cœur aussi très grand. Elle a toujours, aussi jeune qu'elle était, elle disait toujours « je voudrais travailler dans le social, dans les orphelinats ». Elle était plus attirée par cette voie-là. Elle était entourée, elle aimait les shopping, elle aimait les maquillages. Une vraie petite fille.
Elle était scolarisée ?
Oui, oui, elle était scolarisée, oui, à l'école Nederland, à l'école flamande. Parce que francophone, j'estimais qu'avec nous, elle parle à la maison, avec ses cousins, avec tout le monde. Mm-hmm. Tandis que l'irlandais, c'était un plus pour elle, pour plus tard. Mm-hmm. Alors j'ai choisi cette voie-là. Une vie scolaire tout à fait normale. On va dire, elle était au milieu. Ni mauvaise, ni bonne. Entre les deux. J'ai jamais eu de problème avec elle. Que ce soit scolaire ou on va dire, de jeune fille. Tu veux dire, non, elle m'a jamais apporté de problème. C'était vraiment, elle avait une vie, on va dire, lisse. Elle ne sortait pas le soir, ni rien.
Et ses amis, qui sont les personnes qu'elle fréquentait le plus ?
C'était ceux de son école. En dehors de l'école, elle fréquentait plus son grand frère ou sa cousine. Jusqu'à un moment donné, vers 14 ans, elle me disait souvent, je me sens triste, il me manque quelque chose, je ne me sens pas bien. Elle disait souvent ce mot, elle disait, je me sens inutile ici. Je dis, comment ça se fait? Je dis, tu vas à l'école, tu as des amis, t'as ça? Elle dit, oui, mais je me sens toujours triste. Mm-hmm. Et une fois, elle a commencé à chercher dans notre religion et tout ça, et je l'ai trouvée vraiment apaisée. Elle commençait à écouter des CD de religion, mais pas des CD violents, non, hein, des chants coraniques, mais en français qu'elle comprend. C'est pas des trucs radicaux, non, moi-même j'écoute. Hein. C'est des trucs coraniques, mais qui sont beaux à écouter. Que tout le monde peut écouter. Hein. Tu voulais trouver dans tout, oui, partout, dans tous les magasins. J'en ai, je vais te faire écouter, tu vas voir, c'est tout à fait normal, c'est le mien.
Je vais le mettre.
Quand je pense au passé, j'ai envie de pleurer, car j'étais loin d'Allah, de la vérité, prisonnier de mes péchés. Durant toutes ces années, mes péchés m'aveuglaient, la prière, la mosquée, mon cœur refusé. Pardonne-moi, oh Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, ghafilana. Ya Rabbi, Ya Rabbi, ghafilana. Ya Rabbi, ghafilana.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevez alors aucun secours.
Oui, j'écoutais. Mais c'est pas pour ça qu'on est des intégristes ou des fanatiques. Hein. Petit à petit, elle s'est plus intéressée, elle s'est plus investie dans la religion, mais moi que je trouvais tout à fait normal, vu que je suis moi-même musulmane. Mm-hmm. Pour moi, c'était tout à fait logique, puisque sa vie continuait aussi. Ça, c'était ça, notre religion, mais à côté, elle continuait à vivre. Puis un jour, elle dit, oui, moi, j'ai trouvé ma paix dans ma religion, j'aimerais bien être voilée, tout ça. Et moi, je lui ai dit, écoute, tu sais, Nora, déjà, pour garder un boulot et avoir un boulot sans être voilée, c'est déjà très dur. Continue à l'école et tout, on verra plus tard. Puis un jour, j'étais dans le salon, on devait aller à son école. Puis elle descend, je l'ai vue descendre des escaliers parce que je ne m'entendais pas. Puis elle descend, je dis Nora, allez, dépêche-toi, on a réunion à l'école, dépêche-toi, on doit aller à ton école. Et là, je l'ai vue habillée tout à fait voilée, de la tête aux pieds avec les gants. C'était pas le voile, mais c'était intégral, tout. On voyait que son visage. Le hijab, on dit en arabe. J'ai dit, oh Nora, ah, mais tu me l'as dit. T'as dit que vers la fin d'année, je pouvais. J'étais sûre. C'est ce que tu veux. Elle dit, oui, c'est ce que je veux. De toute façon, je ne l'enlèverai pas. Ben, j'ai dit, eh ben, on va chez le directeur. On a quand même rendez-vous à ton école. Alors, on a été, je ne dis pas la tête des profs. Le directeur n'en revenait pas. Il était, oh, mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, eh ben, monsieur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? Je dis, elle veut venir comme ça à l'école. Il dit, oui, vous savez, c'est une école catholique. On veut pas. Je dis, oui, mais on fait quoi? Il dit, bon, allez, exceptionnellement, je veux bien qu'elle mette le foulard, mais elle le met autrement, mais pas tout à fait le vêtement. Puis elle a été quelques jours à l'école, et puis elle dit, non, moi, ça va pas comme ça. Moi, je veux le mettre entier. Moi, je suis pas, je veux le mettre, et c'est tout. Je veux. Je dis, mais ils veulent pas. Elle dit, de toute façon, elle avait eu ses 18 ans, c'était au mois de février. Elle avait eu ses 18 ans. De toute façon, maintenant, je suis grande. Je dis, oui, alors, on fait quoi? Il y a aucune école, il va t'accepter. On fait quoi? Elle dit, oh, de toute façon, j'ai plus envie, je veux arrêter l'école. Je dis, mais tu peux pas. Elle voulait plus. Elle voulait plus à l'école puisqu'il acceptait pas comme elle était.
Il était en quelle classe, Nora?
Cinquième.
La cinquième, c'est l'équivalent de la première en France, un an avant le bac.
Voilà. Et alors, elle m'a demandé, elle m'a dit, je vais plus aller, je veux quitter l'école, moi, je préfère suivre ma religion et tout ça. Je dis, mais oui, mais tu vas faire quoi? Elle me dit, je te promets, maman, tu verras, je te promets, au mois de septembre, j'irai faire une formation pour devenir, travailler dans des orphelins pour enfants en difficulté. Et moi, je l'ai cru. Et puis, elle m'a dit, oui, j'ai envie de suivre, aller dans une école pour apprendre à écrire l'arabe et tout ça. Moi, je trouvais toujours normal, parce que je me dis, tu vois, si elle veut savoir écrire et tout ça, un avantage. Après, elle a dit, je voudrais m'inscrire à fitness. Mais je lui ai dit, d'accord, elle voulait faire fitness. C'était un truc avec des filles. Et là, elle est sortie, elle va connaître un garçon de Villevorte. Puis, il a demandé pour la connaître, il a demandé à la grande. Ma grande fille, elle était avec elle, elle est avec la petite au sport. Quelques temps, des mois après, elle m'a dit, maman, je dois te parler, un garçon, il va venir, je veux me marier avec lui. Je l'ai vu 4-5 fois, puis j'ai dit, non, elle est jeune, je voulais pas en fait qu'elle se marie. Et j'avais peur qu'elle divorce, pas de travail, mais moi j'avais toujours peur de ça, je voulais qu'elle ait quelque chose, un acquis. Puis je voulais pas qu'elle se marie avec lui. Il était aussi dans les études. Formation, je crois, carrosserie, dans les voitures. Je l'ai un peu attendu sa famille, qu'il était d'où il venait. Mais c'est vrai qu'il me disait, je viens de Villevorte. Il disait, j'aimerais bien épouser avec Nora. Il aimait ma fille. Il me disait qu'elle était tout pour lui. Il me dit des trucs comme ça. Moi, je dis, c'est bizarre, tu vois. Après, j'ai dit à ma fille, je veux pas. Je crois qu'il avait 19 ans à l'époque. Il avait un an de plus qu'elle ou un an et demi. Et lui, il était parti, il avait disparu de la circulation. Je disais, où il est? Et comment, comment ça se fait qu'il a disparu? Il dit, oh, il est parti en Syrie. Mais moi, pour la Syrie, je savais toujours pas que c'était en guerre. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il a été faire en Syrie? Et je trouvais bizarre que les parents de ce jeune homme, qui la faisaient venir chez eux, je disais, mais Nora, ce garçon, tu n'as jamais rien eu chez nous, ça se fait pas. Tu n'es pas mariée avec ce garçon, tu n'as rien à voir avec lui. Pourquoi tu vas chez ses parents? Le garçon, il n'est même plus là. J'ai dit, arrête d'aller. Elle dit, non, je les aime bien, les pauvres, ils ont plus leur fils, il est en Syrie. J'ai beau insister, elle allait quand même. Ils avaient vraiment mis la main dessus sur elle. 9 mois a passé que le garçon était là-bas. Et vers le mois de février, les gens ils me disaient, oui, tu sais, t'as marié ta fille. Je me dis, j'ai pas marié ma fille, il n'y a aucune qui est mariée. J'ai dit, ah, il y a un bruit qui court que tu t'es mariée. Je dis, mais je suis pas au courant, j'ai pas été invitée. Elle me dit, c'est pas vrai, tu dois pas écouter, c'est n'importe quoi. Nanani, c'était vers le début, mais que ce bruit courait. Et je me dis, comme je suis divorcée avec son père, et comme son père, il voit presque jamais ses enfants, il a fait sa vie. Je convoque son père, je dis, écoute, tu sais, comme tu vois pas tes enfants, toi, tu dis amen à tout, oui à tout. Je dis, fais attention qu'elle va pas chez toi, qu'elle te demande de la marier. Il dit, oh, mais non, t'es folle, je connais pas ce garçon. Et vers le 20 mai, elle disparaissait. On s'est levé, puis elle n'était plus dans sa chambre. Elle était encore ici en Belgique. Et puis moi, je téléphone, je dis, écoute, Nora, tu sais que le dimanche, j'aime bien que tu restes avec moi. On fait tout ensemble, tu vois, elle m'aide et tout ça. Elle dit, oui, mais non, je suis chez les parents de ce jeune homme. Je dois faire des choses chez eux et tout ça. Écoute, j'ai plus de crédit sur mon GSM, j'ai plus de SMS. Elle dit, je ne serai pas t'appeler les rien. Mais je dis, oui, mais rentre pas tard. Elle dit, non, t'inquiète pas. Moi, je lui ai téléphoné à 8h30 du matin. Entre-temps, 20h30 le soir, mon fils, le plus jeune, de 17 ans et demi, il rentre. Je le vois tourner comme un fou dans la cuisine, comme un fou. Je dis, qu'est-ce que t'as? Et puis il me dit, oui, il y a un bruit qui court qu'on aurait parti en Syrie. Là. La première réflexion, je prends mon GSM et j'appelle. Et je tombe sur l'intonation de qu'elle n'est plus en pays, territoire belge. Et là, je me dis, c'est fou. Mon monde s'est écroulé. Et puis 3 jours après, elle me téléphone et elle me dit qu'elle était bien en Syrie. Et qu'elle était avec ce jeune homme. Après, elle me dit, maman, je vais t'annoncer quelque chose. Je me dis, quoi encore? Elle dit, papa m'a marié avec ce jeune homme. Et même pas 2 semaines après, rebelote, elle me téléphone. Déjà que je suis dans plein de dépression. Et elle me dit, elle m'annonce quoi? Sa mort. 2 semaines qu'elle est arrivée là-bas, elle m'annonce qu'il est mort, ce jeune homme. Le 7 juin, il est mort. Il est tombé en moujahidine. Je dis, voilà, je dis, on fait quoi maintenant? Et je la supplie, reviens chez nous, on est ta famille, reviens. Elle a dit, moi je veux rester pour Allah, je veux faire fi sabilillah, je vais aider les gens là-bas, je veux être utile là-bas. Au début, j'avais de la colère, je me dis, allez, regarde-moi, c'est Roméo et Juliette de 2013. Ils sont partis là-bas, mais ils avaient oublié une chose, qu'un des deux pouvait mourir dans cette guerre. Oui, il est mort. On n'a rien vu arriver, rien. Ou peut-être que c'est nous qu'on nous a... On était aveugles, peut-être. Mais alors, tous les parents sont aveugles, alors. Parce qu'on n'a rien vu.
Je me présente, je suis Véronique. Je suis aussi touchée par ce problème parce que j'ai mon fils qui est parti en Syrie en 2012, en passant d'abord par la Turquie et puis ensuite par la Syrie. On n'a rien vu venir. Et c'est ça, même mon fils, j'ai vu sa radicalisation, tout s'est fait en silence.
Parce que vous, Véronique, vous avez une histoire très différente de Samira. Vous êtes d'un milieu belge, catholique, de la classe moyenne.
Oui, j'ai eu des parents qui étaient des intellectuels. Ma mère était une féministe belge. Mmh. Et mon père était médecin. Donc, ma mère était juriste aussi. Mmh. Je suis peut-être un cas atypique, comme on dit. Catholique de surcroît, avec mon fils qui s'est converti à l'âge de 14-15 ans. Mais comme j'étais très tolérante, j'ai accepté. Je n'ai pas vu dans cette conversion quelque chose de mal. Bien au contraire, tant que c'était son vécu, j'acceptais. C'était quelque chose de lent du côté de mon fils. Mais quelque chose d'aussi brutal quand au départ, quoi. Parce que il est aussi parti du jour au lendemain, sans rien dire, et on a su quelque temps après où il se trouvait. Moi, il en a profité que j'étais partie en voyage. Mmh. Il est venu m'accompagner à mon transport. Mmh. On s'est embrassé, au revoir maman, et puis c'était le dernier jour que je l'ai vu de ma vie, quoi, jusqu'à présent, quoi. Je ne l'ai plus jamais revu. Il y a des enfants qui sont partis le matin et les parents les croyaient à l'école et le soir, ils étaient en Syrie. Le mien est passé d'abord par la Turquie. Là, je l'ai suivi avec les préfixes téléphoniques. Je savais plus ou moins où il se trouvait. Et puis, un jour, il a basculé en Syrie, quoi. J'ai eu des contacts un petit mois après son départ, où il m'a dit qu'il était en Turquie. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fiches là-bas? Alors il me dit, oui, on fait de l'humanitaire. Je suis humanitaire. Alors moi, j'allais sur Internet voir tous les camps de réfugiés, les villages où ça se trouvait, jusqu'au jour où j'ai été appelée à la Sûreté de l'État belge, qui m'ont montré une photo. Ils ont dit, est-ce que c'est pas votre fils? Je niais. Oui. C'était mon inconscient. Je sais pas, mais je niais, quoi. Et ils m'ont montré, ils m'ont dit, écoutez, madame, on doit vous dire quelque chose. Votre fils est dans une brigade et il combat. Ils m'ont montré une vidéo où on voit effectivement le chef de brigade présenter mon fils comme étant un bon musulman qui vient de la Belgique. Pour les aider. Je ne sentais plus mes pieds, mes jambes. Je tenais plus. Je me dis, mais c'est pas possible. Parce que moi, je suis pacifiste depuis 40 ans, je suis dans un mouvement pacifiste belge. J'ai éduqué mes enfants dans des manifestations pacifistes. Mon fils est venu avec moi. On a fait des manifestations contre l'implantation des missiles en Belgique. J'ai jamais imaginé qu'un jour, je le verrais sur une photo avec cette calache. Je me disais, mais enfin, est-ce possible que mon fils puisse porter ce genre d'arme sur lui, quoi?
Et à chaque fois que vous l'avez au téléphone, quand même, c'est chaleureux entre vous?
C'est très dur. Très dur. Il parle pas beaucoup. Il me demande parfois comment ça va, quoi de neuf. C'est moi qui suis plus à lui poser des questions, dire écoute, comment tu vas? Est-ce que tu. Moi, chaque fois, je lui disais, Samy, va pas dans les combats. Et la dernière fois, c'était sur Skype, il y a à peu près une huitaine de jours. Il m'a dit, maman, on a été attaqué, j'ai plus de maison, j'ai plus d'affaires, j'ai plus rien. Il vit à l'hôtel. Mais moi, on m'a dit qu'il n'y a pas d'hôtel en Syrie. Alors, je ne sais pas trop penser quoi. Je ne sais pas où il se trouve.
Il vous dit jamais qu'il va revenir?
Non, il a dit que ça, il faut, même dans sa tête, il ne faut pas imaginer qu'il rentrera. Souvent, il m'a demandé de me convertir à l'islam pour que j'aille le rejoindre là-bas. Je dis, Samy, moi, je comprends rien à cette religion. Et puis, c'est dur pour moi. J'ai une soixantaine d'années. Et pour moi, prier Dieu, c'est prier Allah. C'est ce que je lui ai toujours dit. Je dis, on a le même Dieu, mon vieux. Je dis, on a le même Dieu. C'est ce que j'ai dû à lui dire. Il ne veut pas m'écouter. Il croit que mon Dieu n'est pas le même que le sien. On ne vit plus.
Samira, vous avez quelques informations sur là où pourrait se trouver votre fille, Nora?
Non, je n'ai pas d'informations, ils ne disent pas. Aucun jeune qui est parti là-bas ne dit où ils sont, aucun. Mais si on leur demande, ils ne nous disent pas. Si je savais où elle était, mais franchement, j'aurais déjà été pour la voir, guerre ou pas guerre, hein. De temps en temps, je lui demande « T'es où ? Dans quelle ville ?» Mais elle ne répond pas. J'ai appris une chose, il ne faut pas les brusquer, dire des choses qui peuvent les braquer. Parce que le seul lien qu'on a, c'est qu'ils nous appellent. Si on perd ce lien, nos vies, c'est fini pour nous. Ou sinon, je lui parle de la vie d'ici. Alors de temps en temps, elle me dit « Maman, raconte-moi une histoire. » Je lui raconte des trucs pour faire rire. Par exemple, c'est une anecdote comme ça, elle nous dit. Elle dit, j'ai rêvé d'un beau croissant, une beau fromage. Elle dit, maman, s'il te plaît, fais-moi plaisir, va t'acheter et mange-le pour moi. C'est comme si je l'avais mangé. Et nous, on court, on va l'acheter et on le mange. Des fois, je sens fatiguée, mais sinon, elle dit, elle se plaint jamais. Des fois, je lui demande, elle me dit qu'elle avait maigri beaucoup. Des fois, elle me dit, il me manque des vêtements. Je dis, mais comment je peux faire? Elle dit, on sait pas.
Mais elle vous dit ce qu'elle fait, où elle est, dans quelles conditions elle vit?
Non, elle dit seulement, fils Abila. Toujours elle dit, je suis là pour Dieu. Elle dit, pour Allah, je ne me plains pas, ni rien, c'est la volonté d'Allah.
Elle n'est pas au combat?
Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle est au combat. Une femme, je ne crois pas qu'elle peut combattre. Si? J'en sais rien, non, je ne pense pas. Non. C'est ça qui est très, très stressant. De ne pas avoir de nouvelles, de ne pas savoir. Je me sens coupable parce que je n'ai rien vu. Je pensais la connaître, mais j'ai rien vu. Ouais, beaucoup de regrets, beaucoup. Ouais, je me culpabilise, beaucoup, parce que j'ai pas su la protéger. Tu vois, on dit toujours souvent à nos enfants, faites attention à la drogue, faites attention à la cigarette, faites attention à vos fréquentations, faites attention pour une fille et un garçon, tout ça. Mais on pense jamais à ça. Jamais que quelqu'un peut leur bourrer de leur crâne. Mais ces gens qui ont bourré le crâne à nos gosses, eux, ils sont bien en Belgique. Ils sont bien au chaud. Pendant que nous, nos enfants, ils sont là-bas.
Qui sont ces gens qui ont bourré le crâne de vos enfants?
Si je le savais au moins. Si je le savais. Seulement je le savais.
Dans l'islam, c'est difficile d'être une femme seule, veuve. Donc, comment elle vit là-bas? Elle est remariée?
Non, elle vit avec des femmes.
Vous n'avez pas envie d'aller?
Oh, si, moi, je serais déjà partie, je savais la vérité. Je serais déjà allée. Mais aller où? La chercher où? Où ça? Demain, ma fille, elle me dirait « Maman, viens, chiffrer les yeux fermés. »
Ce qui nous manque, hein, je pense, enfin moi, à mon niveau, c'est pouvoir le sentir, le toucher. Moi qui adorais lui donner un petit bisou, tout ça. Terminé, c'est ça qui est dur, je trouve.
Pas oublier aussi ceux qui, nos enfants belges qui sont partis, qui ont laissé leur vie. Qui va parler, qui sont morts, qui va parler pour eux, qui va se rappeler de eux. Parce que quand ils meurent là-bas, on n'a pas le corps, on n'a rien. Vous imaginez? Tous ceux-là qui ont laissé leur vie, pourquoi? Pour une cause que nous-mêmes, elle nous dépasse. Elle nous dépasse, cette cause. Elle nous dépasse vraiment.
When the night comes down and you cannot sleep, thinking about all the troubles that will happen to me, he slowly comes into my life, he slowly comes into my room, shadows dancing on the walls, shadows growing like the tree. Mama, mama, I want him to steal me. Mama, mama, pretend you are asleep. And when night is slowly falling, his hands are falling on me.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et Les Parents Concernés, une émission rediffusée pour essayer d'éclairer, de comprendre les événements et l'engagement des djihadistes ainsi que les solutions que l'on pourrait essayer d'adopter, avec bien sûr une pensée spéciale pour les victimes des attentats de Bruxelles, de Paris et d'ailleurs. Merci à Samira, Véronique, une pensée pour Salia, la mère de Sabri. C'était une émission réalisée par Alexandra Malka avec un coup de main d'Éric Lancien et écrite et racontée par Leïla Djitli. Sandrine Chaperon s'est attachée de production des Pieds sur Terre. franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre, c'est pour poster vos commentaires ou en savoir davantage sur nos programmes. Vous pouvez également partager nos émissions sur les réseaux sociaux, Facebook et autres, Twitter. Vous pouvez également y poster des commentaires si vous le souhaitez.